Bonjour, c'est l'émission Micro-ondes, toujours confinée, et comme chaque samedi, nous sommes ensemble de 13h à 14h sur Radio Campus Grenoble. Toutes nos émissions sont podcastables sur le site de Radio Campus, campusgrenoble.org, ou sur le site du Tamis, le-tamis.info. L'émission cette semaine est le lendemain du 1er mai, donc la fête des travailleurs et des travailleuses est une fête importante pour toute l'équipe de Micro-ondes, et normalement, chaque année, on aime consacrer une émission à celles et ceux qui luttent et qui s'y retrouvent. Donc on était un petit peu triste de voir que le confinement pouvait certes nous protéger, mais qu'il venait en parallèle rendre difficile l'action politique et syndicale pour les gens de la base. Et c'est pourquoi on a eu envie de consacrer cette émission aux forces syndicales et d'aller voir ce qu'elles nous racontent sur leur combat actuel, leurs gros dossiers, sur les difficultés rencontrées dues au confinement ou les éventuelles solutions trouvées en attendant, ou sur leurs perspectives pour le jour d'après. Alors, en discussion virtuelle, nous sommes aujourd'hui avec François de Solidaire, Elisa de l'UDCGT, Latifa de la CGT Santé et Guillaume de la CNT. Dans une première partie de l'émission, ils nous font part des actions qu'ils mènent actuellement dans leur secteur respectif pour entrer dans la seconde partie de l'émission dans une discussion sur des points plus précis. Bonne émission.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Salut.
Salut, on est donc sur micro-ondes. Est-ce que vous pouvez, chacun votre tour, nous dire qu'est-ce qui se passe de votre point de vue de syndiqués et de syndicats? Voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le confinement, avec toutes les mesures prises par le gouvernement et les pratiques patronales?
Elisa.
Je suis membre du secrétariat de l'Union départementale CGT, animatrice à la communication. Et pendant le confinement, je suis de permanence téléphonique pour la CGT de l'Isère, ce qui permet d'avoir des retours de ce qu'on appelle la base, donc les syndiqués, et plus largement des travailleurs, travailleuses qui ont beaucoup de questions au-delà des questions juridiques, mais aussi sanitaires. Et donc les luttes qui sont en cours, on va pas se mentir, avec le confinement, prennent une forme atypique et particulière, où les élus mandatés CGT et bien au-delà les travailleurs en règle générale ne savent pas trop dans quelle mesure peuvent revendiquer leurs droits. Pour pouvoir faire une alerte de danger grave et imminent dans les entreprises, il n'y a qu'un syndicat qui peut faire cette demande. Et je prendrai comme exemple donc deux entreprises qui, au sens de la CGT, ne devraient pas pouvoir accueillir les salariés puisqu'elles n'ont pas d'activité dite stratégique et donc met en danger les salariés. Donc la CGT a fait ce qu'on appelle un DGI, donc droit d'alerte pour danger grave et imminent, chez ST et chez Becton Dickinson. Concernant ST, le droit d'alerte est toujours en cours de procédure suivi par la directe et l'inspection du travail de secteur. Chez Becton, ce droit d'alerte n'a pas permis la fermeture de l'entreprise. Par contre, ça a permis de enfin mettre en place des conditions de travail sanitaires beaucoup plus respectueuses de la santé des salariés. Et de plus largement sur les luttes et les combats, donc plus largement, c'est l'intersyndical qui appelle à toutes les entreprises dites non stratégiques de fermer leurs portes pour pouvoir permettre aux salariés de ne pas se mettre en danger. Et cette situation sera d'autant plus accélérée avec le déconfinement 11 mai. Et on voit qu'il y a des entreprises qui n'ont pas du tout vocation à être ouvertes. Je prendrai l'exemple d'une parfumerie à Grenoble qui réouvre cette semaine. Et sans conditions sanitaires mises en place. Donc l'objectif pour les syndicats et me concernant la CGT, c'est de faire connaître les droits aux salariés où il n'y a pas de syndicat. Donc droit d'alerte pas possible. Par contre, le droit de retrait est possible puisqu'il est individuel.
On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Tous ceux qui vont au charbon s'entassent dans les wagons et bossent sans protection, on n'oublie pas.
Latifa, tu es à la CGT aussi ?
Oui, je suis à la CGT aussi, CHU Santé. Pareil, alors nous, on est les délégués syndicaux, on est très actifs sur le terrain. Tout ce qui est IDE, AS, cadres qui sont représentants au CHSCT, on est très actifs. On a fait remonter donc tout ce qui est danger imminent, hein, pas de matériel, pas de surblouse, pas de masque. Donc ça a été le premier CHSCT, parce qu'il faut savoir qu'il y a tous les mardis un point info qui ressemble un peu au CHSCT, qui est intersyndical. Donc, il y a deux représentants de chaque syndicat qui y vont et chaque semaine, on fait remonter toutes les difficultés rencontrées dans le service, notamment tout ce qui est matériel, masque, les conditions de travail, parce que moi, par exemple, je suis en psychogériatrie, On a eu une période où on a eu des suspicions Covid qui étaient, on va dire, pas conformes. Enfin, les procédures de test n'étaient pas conformes à la procédure mise en place par l'ARS. Donc, il a fallu qu'on se batte pour qu'on ait l'équipe mobile Covid qui se déplace, qui fasse les prélèvements. Parce qu'il faut savoir que nous, on les faisait, les prélèvements Covid, sans protection, avec seulement un masque chirurgical. Donc, ce qui est complètement aberrant, quoi. Les plannings, on est là sans cesse à se battre sur les plannings, les heures supplémentaires. On ne sait pas si elles sont payées avec le plan blanc ou pas, ou c'est des heures en plus, sachant qu'on a déjà un débit crédit qui est assez important et qu'on n'arrive pas à récupérer. Les jours cumulés avec le plan blanc, les congés qui sautent plan blanc. Donc, ce plan blanc amène plein de prétextes à des injustices sur le lieu de travail, en fait. Et du coup, ben nous, on est actifs. Hein. On est sur place et on est actifs en permanence. Là, on se bat. Là, il y a eu le CHSCT hier. Et la médecine du travail refuse de reconnaître en accident de travail les soignants Covid qui ont été touchés par le Covid. Donc ça, c'est la plus grosse bataille qui se mène en ce moment au CHU.
Vous avez aussi une bataille qui concerne l'annonce des primes ou ça, comment ça réagit par rapport à ça?
Alors la prime, on a demandé à ce qu'elle soit équitable entre tous les services. Bon, après les services Covid, c'est des services qui ont été créés, c'est normal qu'ils aient un peu plus, mais il faut que ce soit quand même réparti plus ou moins également entre tous les corps de métier. C'est-à-dire que ça peut aller du brancardier à l'agent logistique, à l'ASH, à l'AS, aux IDE, aux médecins. Tout le monde est concerné, en fait. Tout le monde a travaillé. Tous ces corps de métier ont travaillé au CHU. Donc, la prime n'est pas réservée qu'aux infirmières. Il faut qu'elle soit à part égale entre tous les corps de métier. Donc, ça, c'est ce qu'on a réclamé. Et on attend le décret du gouvernement pour pouvoir appliquer et négocier déjà avec les syndicats comment ils vont appliquer ça.
On est là, on est là. Confinés, révoltés, on n'oublie pas. Les hôpitaux saturés et la santé dégradée, les moyens pour nous soigner, on les a pas.
Ben moi, je pourrais un peu rebondir sur un élément, c'est-à-dire qu'on voit, moi je le vois à la Poste, hein, parce qu'il se trouve que
toi, je suis François
de Solidaire, je suis co-secrétaire de Solidaire Isère, mais il se trouve aussi que je suis postier, donc à Sud-TTT. Et depuis le début en fait de la crise sanitaire, en fait, il y a eu le gros dossier qu'on a, c'est vraiment au niveau de la Poste où justement il y a eu une bagarre en fait pour que l'employeur applique un tant soit peu de principes de prévention. Ça a commencé par une première phase où on a posé aussi des droits d'alerte sur tous les centres où on était implanté, et on a appelé le personnel à utiliser le droit de retrait. Et ce qui a assez bien marché au niveau local comme au niveau national, et qui a contraint la Poste en fait à revoir son fonctionnement, puisqu'on a même réussi à faire fermer le centre à Moirans, par exemple, le centre courrier de Moirans, qui est devenu un vrai foyer épidémique, hein, où en début de semaine on avait une suspicion de cas. On a fini la semaine, je me souviens, le vendredi avec 4 à 5 suspicions de cas, et avec un employeur qui envoyait les facteurs et les factrices en fait en tournée avec un morceau de savon, un sac poubelle et une bouteille d'eau. C'est ça les dispositifs de sécurité de la Poste. Et donc, on a réussi à faire, en fait, à faire changer l'organisation du travail. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, on fonctionne sur un mode qu'on appellerait dégradé, c'est-à-dire on fonctionnait sur 3 jours de travail. Là, on repasse à 4 jours, j'y viendrai après. Et sur 3 jours de travail, maintenant 4 jours pour les facteurs, et 1 jour de travail sur 2 pour les guichetiers, avec la fermeture de nombreux bureaux de poste. Voilà, et on a aussi attaqué la Poste au tribunal, et on a gagné sur 2 points, pour défaut de protection pour le personnel. Et on a gagné sur 2 points, c'est-à-dire sur l'obligation qu'ils aient à mettre à jour leur plan de prévention par rapport au risque biologique, qui n'existait pas, qui n'était pas du tout en cause au front à la Poste. Et le deuxième élément, c'est qu'on définisse quels sont les services essentiels à la Poste. Et là-dessus, on est assez habitué, hein, la Poste, elle perd au tribunal, mais elle n'applique pas les jugements. Hein. C'est un peu la norme. On est un peu une république bananière, j'ai l'impression. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, comme il y a eu des aménagements qui ont été mis en place et tout ça, il y a une certaine baisse de combativité du personnel, combativité qui est exprimée au travers des droits de retrait, hein, et qui permet à l'employeur de réavancer. Alors que la situation en termes d'épidémie n'a pas changé. Donc, on repasse à 4 jours, il y a des bureaux qui réouvrent. Et puis, il y a un autre problème. C'est qu'en fait, on a une explosion du trafic colis. D'ailleurs, notre PDG, Val, était très fier de dire qu'on avait un trafic colis qui était équivalent à Noël. Parce qu'en fait, un des problèmes qui se passe, et qui là, pour le coup, de manière générale, ben, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont confinés, qui commandent. Et ils commandent massivement. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des collègues qui font des heures supplémentaires quasiment tous les jours. Et donc, ils se mettent beaucoup plus en danger. On essaye de se battre pour que justement ce soit le facteur qui puisse décider de sa charge de travail. Mais là-dessus, on a un employeur qui, d'un côté, parle de services publics dans les médias, mais en fait, dans les faits, est sur vraiment des logiques financières.
Et François, où en est-on de la répression syndicale que vous avez connue à la Poste, comme au cheminot et ailleurs?
Ben, en fait, elle est permanente là. Par exemple, on a sur PTT, c'est Isère-Savoie. On a une camarade de Moutier qui est en procédure de licenciement. Alors, c'était très fort, hein. C'est-à-dire que toutes les instances étaient annulées. D'ailleurs, pendant une période, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de CHSCT, il n'y avait plus de comité technique. Par contre, la seule instance qui tenait à maintenir, c'était les conseils de discipline. Et puis finalement, le conseil de discipline a été annulé. Donc, on espère bien qu'on va s'en sortir d'une autre manière. Mais après, on va dire que la répression, elle est permanente. En fait, elle se déploie sous une forme claire, c'est-à-dire les représentants du personnel, ils se font sanctionner pour tout et n'importe quoi, hein, comme d'ailleurs notre collègue là de Moutier. Et puis, elle se déploie aussi de manière insidieuse. Parce que, par exemple, du côté des facteurs, on s'aperçoit que quand on est un peu une grande gueule ou quand on porte des revendications syndicales, quand il y a des restructurations, c'est souvent la tournée qui va sauter ou c'est la tournée qui va devenir la plus chargée. Et en fait, on amène vers la porte, en fait, les gens qui se laissent pas faire. Ça marche en partie. Et il y a un recul, en fait, de l'implantation syndicale, on va dire, des syndicats de lutte à la Poste au profit du syndicat, en tout cas à la Poste, qui est vraiment... Et d'ailleurs là, qui a une attitude assez criminelle, hein, qui, dans le cadre de la crise du Covid-19, qui est syndicat d'accompagnement, en fait, qui est une sorte de RH de supplémentaire, c'est la CFDT. C'est-à-dire qu'à la Poste, la CFDT est vraiment, en fait, l'appendice de la direction. Et d'ailleurs là, on a, dans le cadre de la crise du Covid, en tout cas du côté du courrier, du côté des facteurs, on a des attitudes criminelles, hein, de la CFDT où... quand nous, on pose des droits d'alerte, par exemple, ben, la CFDT, nos droits d'alerte, quand on pointe le doigt sur des éléments qui ne vont pas dans la cadre de la prévention, la CFDT écrit le contraire à la direction en disant tout va bien. Et puis, bien sûr, alors là, il s'agit de voter des délibérations dans les CHSCT qui mettent en cause la direction, qui demandent des améliorations de conditions de travail, plus de prévention. On a la CFDT qui vote contre.
Est-ce que c'est une problématique plutôt CFDT locale? Parce qu'on a vu la CFDT qui s'est mobilisée sur le soutien des travailleurs de Amazon pour qu'ils puissent utiliser leurs droits de retrait.
C'est ça justement, je pense, qui est local. C'est chez Amazon, la CFDT s'est peut-être positionnée. Par contre, plus largement, je rejoins ce que dit François, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises où la CFDT est présente majoritaire ou non, et qui dit aux salariés ne faites pas de droit de retrait puisque ça ne passera pas. Donc c'est vraiment le syndicat d'accompagnement du MEDEF et du patron qui essaye de dissuader les salariés et les autres syndiqués à faire des droits d'alerte, à faire des droits de retrait. Je prendrai l'exemple de Cyclis, donc c'est une entreprise de sécurité incendie, où quand les salariés ont posé la question des conditions de travail des salariés, c'est la CFDT qui leur dit ne faites pas de droit de retrait, de toute manière ça passera pas, et nos conditions de travail sont pas pires. Donc je pense que c'est à l'inverse, c'est Amazon qui est un cas localisé. Et plus largement, l'activité syndicale pendant cette pandémie est très complexe, parce que bon nombre d'élus et mandatés ne peuvent pas retourner sur site, donc ne peuvent pas communiquer avec les salariés. Ceux qui arrivent à le faire, je prendrai l'exemple d'un inspecteur du travail CGT qui s'est fait plus que recadrer par Pénico, c'est-à-dire que même ceux qui essayent de faire leur boulot syndical ou même plus largement juste leur travail se font retoquer. Donc là, c'est tout des prétextes pour museler les syndicats révoltés contre ce plan d'austérité qui met finalement en lumière toutes les failles du capitalisme qui est dénoncé depuis des décennies.
On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas. Ils ont tout privatisé, tout vendu aux financiers. Ça ne se passera plus comme ça car on est là.
Guillaume de la CNT.
Bah, comme les camarades l'ont dit, hein, on est en train de changer de monde là et on est dans un état d'exception. Donc on a évidemment les mêmes problèmes que ce qu'ont exprimé les camarades. Évidemment, on est beaucoup moins implanté que la CGT dans l'industrie ou que Sud. Nous, on n'existe plus à la Poste, ou pour ainsi dire. Mais par contre, c'est vrai qu'on est quand même assez régulièrement contacté par des gens qui nous posent des questions sur les premières sécurités qui elles-mêmes existent, sont en train de se faire attaquer. Donc c'est tout le droit du travail. Notamment sur les chantiers, le BTP, mais aussi dans les domaines santé, sociaux, animateurs, etc., dans la fonction publique territoriale, tout un tas de gens qui s'inquiètent sur ce qu'on va leur demander de faire, ou même sur ce qu'on leur fait faire actuellement, et qui se renseignent sur les outils de protection qu'ils peuvent mettre en œuvre. Et du coup, quitte à aiguiller ces gens-là, y compris vers des syndicats implantés comme la CGT au Sud, on a une espèce de veille comme ça qui fait partie du travail un peu de base qui s'est accentué ces derniers temps. Après, je ne vais pas redire ce qui a été dit. Moi, je suis dans l'éducation nationale, donc on a aussi, comme dans tous les aspects de la vie sociale, dans tous les champs professionnels, des problématiques qui sont à la fois les mêmes que partout, mais aussi un petit peu spécifiques à ce champ professionnel. Nous, dans l'éducation nationale, effectivement, on fait le constat quand même que quand on est fonctionnaire et qu'on a un statut qui nous protège, notamment sur le plan économique, eh ben, on n'a pas de problème sur le fait d'avoir une paye à la fin du mois. Donc, ça met un peu en lumière la différence entre les gens que le salariat protège déjà, par rapport à tous les gens qui sont soit en auto-entrepreneur, soit sur des statuts beaucoup plus précaires, et non seulement sont en première ligne, mais sont aussi les premières victimes, les premiers fusibles qui vont ramasser sur le plan économique, sur le plan de la précarité, même s'il y a eu quelques aménagements du gouvernement qui ont été concédés dernièrement. Donc on a aussi quand même toute cette problématique-là, à gérer avec des gens qui sont difficiles à épauler parce qu'en fait ils ont des statuts qui sont des statuts très à la mode. Donc ça fait que tous les syndicats réunis ici, ça fait quand même 30 ou 40 ans qu'on dit qu'à force de précariser le travail, on précarise aussi les capacités de réaction de la classe ouvrière et de notre camp social. Bon bah là on a les deux pieds dedans, hein, et c'est aussi peut-être on y reviendra sur ce qui se passe à Amazon ou ailleurs. Donc nous, dans l'éducation nationale, je veux parler peut-être un petit peu plus de ça, on a la question des précaires, on a la question aussi et surtout des conditions d'accueil du public, du télétravail, donc avec ce qu'on nous demande de faire qui est complètement inédit en termes de télétravail, et une défense à la fois des conditions de travail des collègues, mais aussi du sort de tous les précaires de l'éducation nationale. Hein. Je rappelle que l'éducation nationale, c'est le plus gros employeur de précaires de France. Qu'advient-il des auxiliaires de vie, ce qu'on appelle les AESH, hein, les auxiliaires qui s'occupent des élèves en situation de handicap, des ATSEM, dans la fonction publique territoriale. À Grenoble, par exemple, il y a eu quand même une réaction quand même assez correcte de la mairie qui pourtant traite bien mal ses personnels, notamment ses plus précaires, qui a pour l'instant décidé de reconduire la paye des ATSEM, donc c'est donc les agents territoriaux de soutien en école maternelle. Du coup, il y a tout un tas de gens comme ça qui sollicitent beaucoup d'attention de notre part. Et puis, très largement, on a aussi tout un travail qui, alors là, est à la fois syndical, mais qui dépasse aussi la besogne quotidienne du syndicalisme, hein, qui est aussi un travail plus sur le plan politique, hein, c'est de dire... Est-ce que on est prêt à reprendre le travail le 11 mai, et quelles sont les conditions, et là c'est le chantier qu'on a en ce moment dans l'éducation nationale, c'est quelles seraient les conditions d'une reprise progressive dans l'éducation nationale, sachant que la reprise, tout le monde l'a dit, je le redis, la réouverture des écoles, c'est le pivot de la reprise économique, puisque évidemment, l'idée, là, c'est de pouvoir faire garder les enfants pour que les salariés aillent au travail, ou une partie du salariat aille au travail. Donc, c'est une question qui rejoint aussi ce que disait la camarade de la CGT, c'est quels sont les gens qui sont susceptibles de retourner au travail, dans quelle boîte, quelles sont ces entreprises dont on revendique qu'elles sont vitales pour la vie en société, et quelles sont celles qui le sont moins, ou quelles sont celles qui ne le sont pas du tout. Ça, ça pose des grandes questions un peu vertigineuses sur la réorientation de la production dans des périodes compliquées comme la nôtre, à des fins de satisfaction des besoins de la population, et plus à des fins de profit. Donc, nous, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'éducation nationale, mais globalement, on partage ces préoccupations-là avec les camarades.
Et sans compter l'aspect sanitaire, parce qu'on si il y a une reprise même partielle de l'accueil des élèves, ça nécessitera un tas de précautions dont j'imagine qu'elles restent complètement en suspens actuellement.
Alors là, les gestes barrières à l'école primaire, même dans le secondaire, dans le cadre qu'on nous propose actuellement, c'est de la science-fiction. Je veux dire, tous les gens qui pensent qu'on peut assumer même la moitié de ce qui est préconisé et de ce qui a été préconisé par les différents CHSCT qui se tiennent, il y en a encore de cette semaine, tous les gens qui prétendent qu'on peut même s'approcher d'une sécurité sanitaire dans l'éducation nationale dans les conditions qu'on va connaître là le 11 mai, ce sont des gens qui mentent, soit parce qu'ils ont un intérêt à mentir, soit parce qu'ils méconnaissent complètement le travail. Et donc, on a le même problème qu'à la poste. Les chefs sont dans des bureaux les trois quarts du temps. Et il suffit pas de dire à des enfants de 5 ans, même s'ils sont que 5 ou 10 par classe, de tenir leur distance, de pas s'échanger les crayons, de pas toucher les objets que les autres ont touchés, de se laver les mains souvent et tout. Tout ça, ça c'est vraiment de la science-fiction. Hein. Donc je crois qu'on gagnerait vraiment à ce que les pouvoirs publics et le gouvernement assument un moment de dire la vérité, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui est fait, qui n'est pas un choix social, qui n'est pas un choix de remise au travail ou d'aller chercher les enfants les plus décrocheurs, les plus en difficulté pour les remettre à l'école. En fait, on serait content que le ministère et que les pouvoirs publics assument le choix de réouverture des écoles pour ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire que il y a une préoccupation qui est celle qui est majoritaire, qui est celle qui est première, qui est la préoccupation économique pour permettre de libérer une partie de la main-d'œuvre de sa garde d'enfants pour faire en sorte que les gens retournent au travail. Et puis, on pense honnêtement aussi, même si c'est très difficile à assumer, il y a une exposition au risque de contagion limitée, qui est peut-être même pas forcément complètement stupide, hein, d'une partie de la population la moins vulnérable, c'est-à-dire les gens qui sont en âge et avec une capacité physique pour aller, par exemple, travailler dans les écoles ou retourner au travail, et parce que, de toute façon, on sait, sur le plan sanitaire, ce virus, il ne peut pas s'en aller tout seul comme ça, a priori, et qu'on a 18 mois à attendre pour avoir un vaccin. Donc, si on veut une immunité collective, eh ben, faut bien qu'il y en ait qui se le chope. Et donc, du coup, éventuellement, réexposer une partie de la population. Et cette partie de la population que sont les travailleurs ou les personnes les moins vulnérables, c'est aussi cette partie de la population qui produit les biens et les services nécessaires à la vie en société. Donc, on peut pas non plus rester caché pendant 18 mois. Alors, tout l'enjeu en ce moment, c'est d'arriver à faire en sorte que la reprise ne soit pas précipitée et que si elle a lieu, elle se fasse dans des conditions qui se rapprochent de conditions décentes, qui ne seront jamais des conditions de sécurité absolue, ça on veut bien l'entendre, mais la première des choses, nous, qu'on est en train de faire dans l'éducation nationale, vraiment, c'est d'essayer de pousser en CHSCT et aussi auprès des collègues sur quelles conditions de reprise, quand et pourquoi faire. Et voilà, donc c'est le chantier qu'on a dans l'éducation nationale, en plus de ceux qui ont été évoqués avant.
On est là, confinés, révoltés, on n'oublie pas. Les migrants, les sans-abri, tous les enfants qui s'ennuient, les papis et les mamies, on n'oublie pas. On est là, confinés et révoltés, on n'oublie pas. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, tous unis ça changera car on est là.
Vous écoutez écoutez toujours l'émission Micro-ondes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et vous venez d'entendre par bribes, en fait, tout au long de la première partie de l'émission, la chanson « On est là » réécrite dans le contexte par la compagnie Jolimo, mais choisie par Elisa de la CGT. L'émission est consacrée aujourd'hui aux luttes syndicales en période de confinement, avec Latifa de la CGT Santé, Elisa de l'UDCGT, François de Solidaire et Guillaume de la CNT. Et avant d'écouter la suite de leur échange, notamment autour des outils, des perspectives et des enjeux pour le jour d'après le confinement, on va s'écouter un morceau également choisi par Elisa. Ce morceau s'appelle « La fin du mois, le début du nous » de HK.
Ça commence à l'école, au jeu du premier de la classe. Quand notre candeur s'efface, que l'enfance s'envole. De concours en examen, nos vies sont en compétition. Ou quand se tendre la main devient l'exception. C'est ainsi que l'on vit dans des châteaux de l'ego. Ainsi que l'on en vit nos alter ego. Dans ce grand jeu du moi-je, tous les 5 ans on engage l'élu providentiel tombé du ciel. La fin du mois, enfin, le début de nous. Nous voulons, nous voulons, nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début de nous. Nous allons, nous allons, nous allons changer tout ça. Changer tout.
Y aurait-il ceux qui gouvernent et ceux qui leur obéissent, ceux qui savent faire et ceux qui seulement les élisent, puis se doivent de la fermer jusqu'à la prochaine élection, parce qu'un chef ça doit chefer comme le Saint-Père de la nation. Notre destin entre les mains de ceux qui pensent être l'élite. Ne soyons plus spectateurs de nos vies qui se délitent. Amis, réagissons vite, quittons ce système dépassé, à la solde des vaniteux se vantant d'être nos messies. Est-ce donc ça la démocratie? Dites-moi, êtes-vous vraiment sûr? Quand on réprime dans la violence ou ceux qui crient à l'imposture, serions-nous tel un troupeau aveugle et discipliné, prêt à suivre même un loup s'il promet qu'il est un berger? Des gens qui disent qu'ils savent, qui voudraient tellement qu'on les suive, parce qu'il faut bien quelqu'un nous sauve. Pauvres sauvages que nous sommes, pensent-ils. Faisons leur savoir que ces temps-là sont révolus. Des millions derrière un seul, ce système, nous n'en voulons plus.
La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous voulons, nous voulons, nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous allons, nous allons, nous allons changer tout ça, changer tout.
L'abus du jeu est dangereux pour la santé, pouvant provoquer des crises d'égo surdimensionnées. Disons-le sans émoi, voici venue la fin du mois, consumer de préférence avant la fin de ce mois. Rêvons à voix haute, que les hirondelles nous entendent. Ce qui nous appartient, nous sommes venus le reprendre. Ces matins ensoleillés qui depuis longtemps nous attendent, faisons naître de nos mains tout ce qui ne peut pas se vendre.
La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous voulons, nous voulons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin, le début du nous. Nous allons, nous allons, nous allons changer tout ça, changer tout. La fin du mois, enfin.
C'est toujours micro-ondes sur Radio Campus Grenoble et on reprend le fil de la discussion entre Elisa de la CGT, Latifa de la CGT Santé, François de Solidaire et Guillaume de la CNT. Alors, est-ce que la période de confinement qui contraint quand même largement les possibilités de lutte permet de faire, pourquoi pas, émerger des nouvelles modalités de lutte? Est-ce qu'il y a des choses qui s'inventent? Et puis, quelles sont les perspectives pour l'après-confinement?
Bah, très honnêtement, je pense pas que qui que ce soit ait inventé quoi que ce soit. Par contre, on utilise des outils qui n'étaient pas du quotidien. Le syndicalisme, en tout cas pour ceux autour de la table aujourd'hui, aime le présentiel, aime le contact avec les gens, faire la tournée des services, la tournée des boîtes. Donc c'est quelque chose qu'effectivement là, on ne peut pas faire. Par contre, on n'a rien inventé quant aux visio, les réseaux sociaux. On a juste accentué ces nouveaux outils de communication et de lien, mais c'est pas quelque chose que les syndicats adorent, quoi. C'est, mais on a rien inventé. Juste, on multiplie les outils, les visios. On voit, je pense que pour tous ceux qui ont une page Facebook, le nombre de personnes qui suivent est s'accentue. Les nombres d'appels téléphoniques, pareil. Donc, les salariés, en règle générale, les syndiqués, les syndicats, s'approprient les nouveaux outils de communication, mais sans rien inventer. C'est juste multiplié.
Parce que j'imagine, c'est Yvon là, j'imagine que selon les secteurs d'activité publique, privée, les entreprises, les secteurs professionnels, il y a des secteurs où il y a du chômage partiel, où il y a peut-être du droit de retrait. Il y a beaucoup de précaires, comme le disait Guigui. Il y a la maladie, la garde d'enfants. Et j'imagine que la communication entre syndiqués et plus largement avec le personnel, d'une part, et puis d'autre part, des possibilités d'action sont vraiment difficiles. Et comme tu disais, à réinventer, et ça ne doit pas être évident. Est-ce que vous avez des pistes pour ça? Je parle à tout le monde, là, bien sûr.
Moi, peut-être juste... Déjà, ce qu'on a essayé de faire, et dans cette période qui est vraiment, c'est vrai, ben en fait, qui constitue quelque chose qui peut tuer le mouvement social, parce que justement, ben, tous nos instruments, comme le disait Elisa, hein, tous les instruments qu'on utilise habituellement, ben, la plupart, ils sont coupés. On nous a coupé en fait de nos bases. Donc la première phase, ça a été, nous, on a vraiment essayé de faire un travail pour déjà maintenir du collectif, maintenir des réunions, les faire téléphoner. C'est aussi dans ce sens-là qu'on a trouvé important de maintenir l'intersyndicale qui s'était constituée autour du mouvement des retraites pour qu'on continue à produire du matériel, c'est-à-dire que les liens soient pas brisés et voir comment, avec des méthodes technologiques, on réussit à maintenir ces liens, à constituer des campagnes malgré tout. Alors nous aussi, on a mis en place, donc au niveau national et à Solidaire Isère, on participe, on a mis en place aussi un numéro vert à destination des salariés qui ont des problèmes multiples et divers et qui est aussi assez qui fonctionne pas mal, quoi. Et puis on a fait aussi une autre chose, on a essayé de faire donc ça c'est sur notre site, on a essayé de mettre en place une enquête. L'enquête en fait qui est destinée aux salariés, c'est une enquête sur les conditions de travail. Ça, elle a un peu deux buts, cette enquête. Le premier, c'est qu'on collecte en fait des données sur qu'est-ce qui se passe dans un maximum d'entreprises, dans un maximum de lieux de travail. Parce que cette crise, elle est très grave. Elle démontre une nouvelle fois, hein, on tombe pas de notre siège, hein, que l'État et le patronat n'en a rien à faire des travailleurs, n'en a rien à faire des classes populaires, n'en a rien à faire de la population. Et on tient à documenter ça au travers de l'action des CHSCT, mais aussi cette enquête, pour nous, c'est de nous permettre d'avoir des éléments concrets parce qu'il y aura un jour d'après. Il y aura un jour d'après. Il y aura un jour, on sait pas quand, mais il y aura du déconfinement. Et nous, on pense qu'il faut que les responsables, ils payent la facture. Parce que pour l'instant, ceux qui payent la facture, c'est les classes populaires, c'est les travailleurs. Et c'est pas un hasard si, par exemple, c'est des départements comme la Seine-Saint-Denis où il y a le plus de cas de Covid-19. C'est parce que c'est les gens qui sont au taf à l'heure actuelle qui contractent la maladie. Donc, elle a ce but-là, cette enquête. Et le deuxième but qu'elle a, c'est aussi d'être un peu ce qu'on appelle une enquête conscientisante. C'est au travers du fait de répondre à l'enquête, d'aider peut-être le salarié à prendre conscience que ben, son patron, il le met concrètement en danger parce qu'il y a des manques. Donc voilà, c'est un peu le truc qu'on a essayé de faire localement et qui marche. Alors à la hauteur du nombre de travailleurs en Isère, c'est dérisoire, mais on a quelques centaines de retours de questionnaires. Voilà.
Et tu parles du dis il y aura un jour d'après, Il y a eu un gros appel national qui s'appelle le jour d'après, qui est à la fois une intersyndicale, mais qui rassemble aussi des associations, notamment environnementales. Qu'est-ce que ça vous raconte, ce genre d'action ?
Eh bien, comme disait François, hein, tout le monde essaye de mettre en place des éléments, des outils pour faire des recueils de témoignages ou autres, pour préparer justement le jour d'après. Comme tu disais, donc là, c'était un appel, j'imagine que tu fais référence à l'appel de 18 organisations, puisque ça va bien au-delà de l'intersyndicale, c'est-à-dire que toutes les personnes qui revendiquent un monde meilleur, une justice sociale, fiscale et environnementale, tout le monde est bienvenu pour construire ce jour d'après, puisqu'il ne faut surtout pas qu'on reste entre nous, entre militants, entre syndicats, il faut l'ouvrir, pouvoir véritablement proposer quelque chose. À l'image de ce que propose Solidaire, on a également un numéro vert et des recueils de témoignages, ce qui permet d'avoir des retours des salariés, parce que bien au-delà des syndicats et des syndiqués, il faut surtout pas être déconnecté de ce que les gens vivent, qu'ils soient précaires ou non. Hein. Et donc cet appel des 18 permet d'avoir une base commune de recueil, de réflexion, de propositions, et il faut maintenir la pression. Le déconfinement du 11 ne veut pas dire que la pandémie sera terminée. Je ne sais plus qui tout à l'heure parlait de 18 mois, ça sera effectivement très long. Et la bataille doit se construire pour pouvoir être gagnée. Tout ne sera pas fini le 11 mai. Au contraire, tout commencera puisque les personnes vont retourner travailler dans des conditions abominables. Le fait que au 1er mai, on puisse plus garder nos enfants alors qu'on les envoie à l'école pour certains sur la base du volontariat. Enfin, voilà, tous ces mensonges du gouvernement fait que il faut véritablement travailler en masse cette lutte des classes contre le capitalisme qui met à mal tout nos systèmes de santé, de services publics. Je parle même pas du télétravail là qui se fait dans des conditions horribles et qui permet d'accélérer les fermetures de services publics. Je prendrai l'exemple de la CPAM où je suis déléguée syndicale. On voit qu'il suffit de prendre en photo ta feuille de soins et de l'envoyer sur amélie.fr pour se faire rembourser et ça fonctionne. Donc, ils vont se servir de toute l'expérience de cette pandémie pour accélérer la casse des services publics, la casse du code du travail. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut préparer ensemble. Donc, les 18, mais bien au-delà des 18, parce que localement, il peut y avoir d'autres associations, d'autres collectifs qui se réunissent. Et il faut du temps et pas lâcher la pression pour pouvoir vraiment gagner le jour d'après.
Ben, à propos du jour d'après, est-ce que vous avez quelque chose à affirmer par rapport à toutes les mesures qui sont prises presque chaque semaine, et la dernière qui date du 23 mars, c'est ce glissement autoritaire visiblement destiné à verrouiller de toutes les libertés publiques, les d'expression et autres, en plus du droit du travail. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ?
Bah, là, moi c'est Guillaume de la CNT, mais bon, l'intersyndicale là, dont parlait François, qui effectivement est assez solide depuis la lutte contre les retraites, elle revendique tout simplement l'abrogation de l'état d'exception dans lequel on est, c'est-à-dire la fin de l'état d'urgence sanitaire. Non pas qu'on n'ait pas conscience qu'il y ait un état qui soit urgent et qu'on soit dans un problème sanitaire, mais l'état d'urgence sanitaire et les ordonnances sur le code du travail qui vont avec complètent aussi effectivement l'état d'exception sur le plan de la répression, de la surveillance. Et sur cette question aussi, on est évidemment que au début du mauvais film. Hein. On est dans quelque chose où il y a un durcissement donc par la fameuse stratégie du choc, hein, donc qui permet, dans un état de sidération, dans un état d'impuissance politique, parce que c'est ça l'état dans lequel on est quand même, impuissance politique et syndicale, majoritairement quand même avec ce confinement, même si on essaie d'inventer des choses, hein, d'utiliser cette opportunité, hein, pour le pouvoir, pour faire passer ces vieux fantasmes de contrôle total et de règne sans partage, d'un patronat tout puissant, d'un exécutif sans contre-pouvoir sur le plan gouvernemental, d'une rue qui est juste soumise au bon vouloir du ministère de l'Intérieur, et évidemment les gens qui pourraient émettre des critiques contre ça, bon, seraient des traîtres à l'unité nationale et seraient des inconscients qui veulent propager le virus et qui cherchent la discorde alors qu'on a besoin, on nous l'a assez dit, d'unité, de soutien, de concorde, et qu'on est tous dans le même bateau. Donc en fait, il y a effectivement un gros glissement, donc il y a un glissement qu'on connaît par cœur sur le plan théorique, mais c'est pas pour autant qu'on arrive à le contrer quand il arrive en pratique. C'est le libéralisme autoritaire, c'est-à-dire bah, l'alliance d'une exploitation totale de la classe ouvrière en lui supprimant tous ses droits et les conditions de travail les plus élémentaires, et d'une répression totale des gens qui essaieraient de s'y opposer et d'un contrôle total de la population. Alors évidemment, on n'est pas arrivé au bout du film, on est en train de prendre ce chemin-là, et le rôle des syndicats, c'est effectivement de se défendre, mais c'est aussi de proposer des perspectives, hein, les camarades l'ont dit. Donc le jour d'après, c'est un appel qui est très intéressant, parce qu'en fait, ils cherchent à donner des perspectives communes, parce que tout le monde a son idée du jour d'après. Le problème, c'est que le patronat aussi a son idée du jour d'après, qui n'est pas la nôtre, et du coup, il faut que, face à des gens qui sont une classe constituée, c'est-à-dire des gens qui savent quels sont leurs intérêts et où ils veulent aller, nous, il faut que nous sachions aussi qui nous sommes et où nous voulons aller. Et donc, l'intérêt de ce jour d'après, c'est de se dire que de toute façon, sur le plan économique, on va s'exposer à une crise qui est à peu près 10 fois supérieure à celle qu'on a connue sur le plan économique en 2008, et que de toute façon, il y a vraiment des grandes chances que tout le système économique capitaliste soit vraiment, vraiment très ébranlé et que la facture soit présentée à la classe ouvrière, parce qu'évidemment, dans le système capitaliste, on collectivise les dettes et puis on privatise les bénéfices. Donc, du coup, nous, ce qu'on regrette à la CNT sur cet appel du jour d'après, c'est que il y a assez peu d'appels, il y a pas tellement de propositions d'organisation, et notamment d'organisation ou de stratégie de lutte, notamment le mot grève n'est pas tellement cité et tout ça, mais c'est un appel qui a vocation à être retravaillé, qui a vocation à être discuté. Et on fait pas un programme politique ou on donne pas des perspectives politiques à des échelles aussi larges en 3 jours ou en 1 semaine, quoi. Donc du coup, on trouve que c'est un appel qui pose des bonnes bases, et on pense que c'est bien qu'on se constitue dans une perspective et pas seulement dans de la défensive.
Bon, et du coup, c'est un débat qui a des chances d'avoir lieu dans une intersyndicale locale.
C'est le cas. Cet appel au 18, bah, comme il disait Guillaume, après tout le monde rejoint ou pas sur la forme, mais sur le fond, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les mesures sanitaires sont un prétexte pour mettre un plan d'austérité en action, et que à travers ces pseudo-mesures qui finalement protègent pas tant la population, c'est surtout accélérer les choix de société que les ultra-libéraux veulent mettre en place, quoi. Et donc c'est des choses sur lesquelles l'intersyndicale se retrouve à construire, après, parce que chacun a ses idéologies, mais sur la valeur de fond, l'intersyndicale s'y retrouve. Après, c'est effectivement la forme, comme il disait Guillaume, cet appel des 18 a le mérite d'exister. Après, on est d'accord ou pas avec tous les points, mais en tout cas, c'est déjà mis en débat dans l'intersyndicale.
Nous, enfin, ouais. C'est même au centre du débat dans l'intersyndicale, et je pense que c'est vraiment bien qu'on réussisse à avancer, et malgré justement cette période, qu'on ait pu continuer à avancer collectivement, à élaborer. On a sorti des tracts communs, des communiqués de presse communs, et voilà. Et puis parce que je pense qu'on est tous conscients que, en fait, derrière le discours, les discours qu'on peut entendre ça et là de patrons, de Macron, de responsables politiques, ah oui, les services publics, ah oui, on a compris et tout ça, on sait très bien qu'en fait, leur but, c'est que ça reprenne comme avant, mais en fait, en vérité, pas comme avant, pire qu'avant. Donc, il va y avoir une grande phase de confrontation. Et cette phase de confrontation, elle va décider du futur, mais c'est un futur proche, et c'est vrai que ça fait tout drôle. Guillaume le disait à un moment, hein, on avait beau théoriser ce moment, ben en fait ça fait drôle, ça fait vraiment drôle d'y être. Et on est, oui, dans un moment de crise et de rupture, soit vers quelque chose parce que les masses vont s'emparer de la politique, et donc de rupture progressiste, d'une transformation sociale vers une société plus humaine, plus juste. Soit si les masses ne prennent pas les choses en main, eh bien ça va être beaucoup plus une société qui va vraiment, enfin qui ressemblera pas à celle d'avant. C'est ça le problème. C'est même pas, on pourrait même pas dire on veut juste rembobiner. Non, ça va se radicaliser, soit dans un sens, soit dans un autre. Et c'est pour ça qu'on pense que il faut qu'on travaille des contenus programmatiques. Il faut qu'on travaille à ça, à la constitution de front. Parce qu'il faut pas justement qu'on se fasse avoir. Je pense que c'est un peu ce qui, Enfin, en tout cas, pour moi, ce que je retire de 2008, c'est qu'en 2008, en fait, pourtant, il y a eu des manifestations et tout ça, mais ça a radicalisé le libéralisme et on n'a pas réussi à proposer quelque chose d'autre, en fait. Et je pense que c'est pour ça. Alors voilà, et il faut qu'on continue à travailler, mais qu'on constitue des fronts et des axes programmatiques pour aller vers la société vers laquelle on veut. Parce que par contre, ce que je trouve marquant, enfin ce que j'espère marquant pour l'ensemble, pour une grande partie de la population, c'est que le libéralisme, il est à nu. Ce libéralisme autoritaire, il démontre tous les jours son incapacité à produire une société ne serait-ce que correcte. Et s'il n'y a pas de masque, s'il n'y a pas de test, s'il n'y a pas de filière industrielle qui arrive à se mettre en place, c'est parce qu'on a des idéologues libéraux en face de nous. C'est pas des gens pragmatiques, c'est des idéologues. Parce qu'ils savent très bien que si on commence à nationaliser, à créer des filières, à reprendre ne serait-ce que Luxfer, qui est une entreprise là-bas à côté de Clermont-Ferrand, qui produit des bonbons d'oxygène, aller prendre sous forme autogestionnaire, ben en fait, ça remet en cause leur idéologie mortifère, ce capitalisme-là, finissant, qui est profondément mortifère. Et on a des idéologues en face de nous, et ils ont bien conscience que ça risque de leur poser problème. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à avancer, parce que on va s'acheminer vers une crise extrêmement importante du capitalisme, qui va sûrement être plus grave, beaucoup plus grave que celle de 2008, et que dans ce cadre-là, il faut que les masses, elles puissent avoir de l'espoir, une perspective d'espoir, parce qu'autrement, enfin voilà, on a fêté il y a pas très longtemps, je crois, la mort ou la naissance de Rosa Luxembourg, mais on est encore à une nouvelle période, comme le disait Rosa Luxembourg avant de se faire assassiner par les sociodémocrates, comme le disait Rosa Luxembourg, c'est socialisme ou barbarie. Voilà. Alors quelle sera la forme du socialisme? Ben là, ben justement, avec la fin du stalinisme des pays de l'Est, ben justement, on peut peut-être reconstruire une forme de socialisme désirable. Mais si on n'arrive pas à faire ça, on risque d'aller très rapidement vers. On est déjà en partie dans la barbarie, mais ça risque encore de se radicaliser. Et c'est pour ça que là, sur nos frêles épaules de syndicalistes, j'ai l'impression qu'on repose beaucoup de choses.
Est-ce que ça peut être le mot de la fin, car on arrive au bout de l'émission, malheureusement bien trop courte.
Oui, moi je voudrais bien dire rajouter quelque chose. Donc ouais, Latifa. Donc concernant l'hôpital, ce qui se passe à l'hôpital, en fait, cette crise a révélé quand même une grosse négligence de la part de l'État, en fait, à fournir le nécessaire de travail à l'hôpital, en fait. L'hôpital public est sacrifié depuis quelques années et cette crise a permis de révéler en fait ce qui se trame en fait. Je sais pas trop ce qui se trame, mais moi ce qui me dérange énormément, ce qui me met mal à l'aise, c'est les applaudissements à 20h et c'est les appels de dons à l'hôpital public. C'est quelque chose moi qui me rend folle en fait. Parce que, enfin voilà, c'est pas aux gens de fournir des masques, c'est pas aux gens de faire des dons à l'hôpital pour l'achat de matériel. Parce qu'au final, tous les dons qu'il y a eu financiers, là, je parle de l'hôpital de Grenoble, hormis la salle cocooning au service Covid, au réa Covid qu'ils ont fait, et les tablettes pour mettre les liens aux familles et patients, on n'en a pas vu la couleur. Hein. On n'a toujours pas assez de masques, on n'a toujours pas assez de blouses. On nous fournit maintenant des sacs poubelles pour servir de surblouses. Donc, il y a... Enfin, on a l'impression que c'est plus des profits qui se font sur le fond d'une crise, mais qui ne bénéficient pas aux premières personnes sur le terrain. Donc, moi, c'est le mot que je voulais dire qui me dérange un petit peu. Et j'espère que après cette crise-là, on sera tous unis dans la rue, parce que je pense que... La précarité, c'est vraiment révélé. Hein. Les plus précaires, c'est ceux qui travaillent. Hein. Voilà, donc c'était le mot que je voulais dire pour la fin.
Ouais, merci à vous, merci. Et puis, on espère qu'on se retrouvera bientôt dans les manifs quand même. Donc ouais. Là, on a au moins la bande-son grâce aux camarades de la CGT. À 20h, on applaudit, mais des fois, on gueule des trucs aussi. Et on sait qui on applaudit et sur qui on gueule. Et on fait la distinction. Je dis ça pour la camarade qui bosse à l'hosto.
Merci beaucoup.
Merci à tous. Hein.
Merci pour cette invitation.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. À bientôt.
Bon ciao. Courage à vous.
À bientôt.
Salut, merci. Ciao.
Ciao. Ciao. Au revoir tout le monde.
Et c'est malheureusement déjà bientôt la fin de cette émission micro-ondes. On termine simplement par deux petites brèves. Une première brève du coup sur la situation dans les centres de rétention administratif, qui est toujours catastrophique avec beaucoup de surpopulation, etc. Et qui là est particulièrement explosive pendant le mois de Ramadan et pendant l'épidémie évidemment de Covid-19. Pour parler de la situation au CRA de Vincennes, on s'écoute d'abord un premier témoignage et après je vous lirai un deuxième témoignage écrit.
Moi en fait là je t'appelle parce que on m'a expliqué un peu la situation, c'est-à-dire que vous étiez trois à être à l'isolement et que là on vous a ramené au 2B.
Ouais, c'est vrai, on est que maintenant ils ont vidé le CRA. Ça veut dire les gens qui étaient là, ils les ont ramenés à l'autre CRA. Et les malades, on est quatre dans cette CRA. Moi, j'étais là dans cette CRA. J'ai resté enfermé depuis vendredi et samedi, et ils m'ont sorti aujourd'hui. Okay. Mais par contre, monsieur, ça que je ne comprends pas. On est malade, et déjà, ils me disent la température, elle est 36, elle monte à 37. Mais par contre, je sens que j'ai des symptômes, ma tête un peu mal. J'ai la diarrhée, je tousse. Mais pour, j'ai dit, mais pour eux, ils me disent non, vous n'êtes pas grave parce que votre température, elle est toujours bas. Ça veut dire, je lui dis, je vais rester ici jusqu'à ce que je crève. Après, vous dites, je comprends rien, monsieur. Oh là, je comprends rien. Des fois, je pense à faire des trucs imaginables, gars. Les quatre, ils ont dit qu'en quoi, notre situation, elle n'est pas grave. Ça veut dire, il attend qu'il faut à quelqu'un qui tombe de nous, un de nous, qu'il va tomber grave. Comme ça, ils peuvent bouger. Mais on est les quatre, on est là, on est malade, les quatre. Et j'ai le truc là, j'ai des yeux qui me piquent. Je parle hier avec le médecin, je lui dis, je commençais à avoir des symptômes, avant je ne l'ai pas. Je lui dis, maintenant je sens que mes yeux ils brillent un petit peu. Je lui dis, est-ce que c'est normal? Il m'a dit, non, ça c'est un symptôme de la maladie. Je lui dis, depuis que je suis au CRA, j'en ai eu de la diarrhée. Parce qu'on mange que les pâtes, le riz, tout ça. Ça veut dire toujours le ventre léger. J'ai des yeux, une diarrhée. Et je lui ai dit, je commence à tousser le soir, je tousse un petit peu fort. Jour après jour, ça augmente. Et pour eux, ils me disent, c'est pas dangereux. Je comprends rien. Voilà, je comprends rien.
Ouais, c'est grave, ils jouent avec ta santé, quoi.
Ouais, je te jure, ouais. Tout à l'heure, j'ai parlé avec une avocate, elle m'a dit, ouais, vous avez le médecin. Je lui ai dit, madame, moi, j'ai fait ce centre 7 fois ou 5 fois. Les médecins travaillent avec la préfecture, madame. Je lui ai dit, moi, mon copain, peut-être tu le connais, l'année dernière, qu'ils l'ont expulsé avec 2 cuillères dans le ventre. Même s'il l'a vu, il l'a donné un paquet de cigarettes. J'ai bleu, cheveux blancs. Ouais, lui, c'est mon pote, on habite à la même ville. Mmh. Lui, ils l'ont expulsé avec 1 cuillère dans le ventre. Alors, c'est ce médecin-là. C'est il l'a ramené à l'hôpital, ils l'ont donné un truc à boire. Et il a, au lieu qu'il le ramène ici, dans les chambres, non, ils l'ont mis isolement. Et à 5h du matin, ils l'ont pris, ils l'ont ramené à Orly. Ils l'ont expulsé avec la cuillère dans le ventre. Je lui dis, madame, ici, je travaille avec la préfecture. C'est pas, même si jamais ils te font sortir de l'hôpital, ils te ramènent où? À l'hôpital Dieu. L'hôpital Dieu, ils travaillent avec la police. Ça veut dire, tu vas y aller loin. Mais par contre, si tu sors dans un autre hôpital public, là, t'as une chance.
Exactement.
Comme nous, dans notre groupe. Il y a deux qui l'ont pris. Dans un hôpital, ils ont pris leurs affaires et tout, ça veut dire, tu soignes et tu vas être libéré. Et comme non par hasard, moi de toute façon, je sais que la préfecture a rien contre moi, je sais pas, de toute façon, moi je pas, à la fois des autres cas, moi, je sais qu'ils ont, la consulat, là, ils n'ont pas laissé passer. L'année dernière, j'étais là. Même maintenant, j'ai un dossier au consulat. Quand ils ont parlé, le consulat a sorti le dossier. Elle a dit, on a des papiers. Mais il m'a déconseillé, il m'a dit de toute façon, pour rentrer au pays, impossible. On va pas tout, tu vas pas rentrer. Mais par contre, il m'a dit, la préfecture a la haine contre toi, ils peuvent te garder 90 jours. Maintenant, je comprends pas. Le Ramadan est bien. Non, moi, je suis malade. Je sais pas, moi, je comprends pas. Je dis, normalement, on va à l'hôpital. Même si je vais guérir, ramenez-moi ici. Je m'en fous. Je finis 90 jours, je vais sortir. Mais par contre, eux, non. Ils nous ramènent maintenant, ils nous mettent ici. Confirmez-moi, on sait pas. On est les quatre malades. C'est pas qu'est-ce qui. De toute façon, ils vont venir, ils vont vous ramener des autres. Hein, parce que l'autre cas, c'est là-bas où il a commencé le virus. Je me souviens bien. Mm. Dans 2 jours, 3 jours, tu vas après, tu vas voir encore 10 jours qu'ils ont ramené.
Ben ouais, c'est sûr. Et je disais beaucoup de force pour toi, là, beaucoup de courage pour la maladie, là,
vous ouais, ouais. Merci de votre part, monsieur.
Et le deuxième, du coup, je vais vous le lire. Donc, c'est une personne qui est retenue et qui raconte comment ça s'est passé à l'heure de la rupture du jeûne pendant le Ramadan. Alors ouais, je vous appelle. Là, on était à l'heure de manger. On était toute la journée, calme, et on ne parlait pas avec eux. On essaye de faire notre religion tranquille, chacun dans sa chambre, jusqu'à l'heure de la coupure, pour qu'on mange. Et là, la police vient. Elle ne nous laisse pas tranquille. Je sais pas, il n'y a aucun respect. Ils sont venus chercher un plateau. Mais qu'est-ce que c'est un plateau? Laisse-nous manger et après on va aller le rendre le plateau. C'est même pas une minute, on n'a même pas encore rien mangé jusque-là. Ils viennent, ils prennent mon ami, ils essayent de le taper. Ils veulent le mettre à l'isolement juste pour un plateau. Et en plus, ils viennent presque 20 policiers. Ils essayent de nous taper, de nous faire des trucs. C'est pas logique. J'ai jamais vu ça, c'est pas logique, c'est des trucs, c'est inimaginable. Tu peux pas l'imaginer dans ta tête. Je comprends plus rien du tout ici. Je comprends plus rien du tout. C'est le mois de Ramadan. Nous on est calme. En plus il y a la maladie, il y a les crises, il y a les gens, leurs familles sont malades. Il y a des gens, ils ne savent même pas que leur famille, si leur famille est morte ou pas. Il y a un ami avec moi ici, son père est malade avec le Covid-19, il a même pas de nouvelles de lui. Les gens ça les stresse. La police, elle ne nous respecte pas. Elle essaye de nous taper, nous mettre à l'isolement pendant le mois de Ramadan. Nous, c'est même pas ça, ils nous laissent même pas avaler un truc, même pas boire de l'eau. Ils sont tellement méchants, je sais pas comment ça va se passer ici avec eux. Nous, on est solidaires, déjà, et eux, ils ne nous respectent pas. Ils font des trucs pour qu'on s'énerve et qu'à la fin, ils nous mettent à l'isolement. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on est en train de faire notre mois de Ramadan tranquillement, on parle pas avec eux. On a été calme toute la journée. À la fin, ils viennent, ils nous font ça, de la merde, pour rien du tout. Parce que nous ici, on est des animaux. On n'est pas des humains pour eux. On est des animaux, je vous répète, on est des animaux. Jamais j'ai vu ici en France ce racisme. La police sont des racistes, ils ne nous aiment pas. Je sais pas pourquoi ils ne nous aiment pas. On n'a rien fait. Oui, on n'a pas de papier. C'est pas parce qu'on n'a pas de papier qu'on n'est pas des humains. Même nous, on a des familles. C'est pas parce qu'on ne naît pas en France. S'il fallait nous faire esclaves, on n'est pas des esclaves. On est en 2020 quand même. Il y a des choses, c'est vraiment... j'arrive pas à les dire, vraiment. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Qu'est-ce que je peux vous dire? Aidez-nous parce qu'on est en train de fatiguer là, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je vous demande le jour d'aujourd'hui? C'est d'essayer de nous aider, pas plus, pas moins. On n'est même pas à demander qu'ils nous laissent sortir ou ce genre de truc, mais juste respectez-nous, nous on vous respecte. C'est le mois de Ramadan. Normalement, on est à côté de notre famille. Là, on est enfermé avec la maladie, avec la crise, on n'a même pas de visite, on est en train de souffrir ici. Et en plus, ils nous donnent à manger. Et vous le mangez même pas, et ils nous donnent à manger des choses qu'ils ne mangeraient même pas. C'est dégueulasse, t'arrives même pas à le manger. Ouais, à la fin, ils ne nous respectent pas plus. Franchement, je vois ça, c'est inimaginable. Tu peux pas l'imaginer dans ta tête, tu ne peux pas. S'il vous plaît, aidez-nous, qu'est-ce que je vous demande? S'il vous plaît, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. On est en train de souffrir, on est en train de nous torturer. La police ici. Vous entendez au centre de Vincennes, on est en train de souffrir, on est en train de souffrir, on est en train de souffrir. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà du coup deux témoignages qui montrent un peu les grosses difficultés. Et là, donc les deux témoignages sont dans le centre de rétention administrative de Vincennes, mais il faut savoir que c'est le cas dans de nombreux CRA en France. La plupart des personnes sont vraiment en grande souffrance, les visites ont été interdites et souvent les règles de gestes barrières. Si les visites ont été interdites, ça a été la première chose qui a été interdite, mais par contre pour tous les autres gestes barrières, ils sont pas du tout respectés et la police globalement ne respecte pas du tout les personnes malades ou les personnes enfermées, justement pour éviter qu'elles tombent malades à l'intérieur du CRA. Il y a eu plusieurs émeutes, ou en tout cas des rébellions, des grèves de la faim dans différents CRA en banlieue parisienne, mais aussi à Nîmes et à Rennes. Voilà. Et aujourd'hui, la seule victoire qui a été obtenue, justement, c'est la fermeture progressive du centre de Vincennes, avec la libération des personnes qui sont déjà malades du Covid-19 et surtout l'arrêt du placement en rétention pour des personnes dans le CRA de Vincennes qui justement a été reconnu comme un véritable foyer d'épidémie. Voilà ce qu'on voulait dire un peu sur les centres de rétention administratifs. Et voilà, c'est donc la fin de cette émission micro-ondes. toujours confiné, mais toujours en lutte. On vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve donc la semaine prochaine, le 9 mai, samedi 9 mai, ou bien samedi 23 mai, pour écouter une émission sur les violences policières. Et puis, on espère se retrouver en juin pour une émission, cette fois-ci déconfinée, en studio, et avec des personnes bien réelles, voilà, et non pas au bout du fil. Portez-vous bien et prenez soin de vous et prenez aussi soin des autres, bien sûr, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas égaux face au confinement et c'est encore une fois souvent les mêmes personnes qui vivent encore plus un enfer. Et on termine en musique et en humour par la chanson « T'as voulu voir le salon » par les Goguettes sur l'air de « T'as voulu voir Vesoul » de Jacques Brel. Bonne journée à tous, à bientôt.
T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romère, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, j'y suis resté 8 heures. Pour ou contre Raoult, je sais plus trop, j'avoue. Est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Je me demande bien. Oh mais, je te le dis, je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 48, c'est fou que le temps passe vite. T'as voulu voir Macron et on a vu Macron. Maintenant tout est plus clair, on sait ce qu'il faut faire. Pour pas se contaminer, il faut se confiner. Mais pour se déconfiner, faut être immunisé. Pour être immunisé, faut se faire contaminer. Pour se faire contaminer, faut se déconfiner. C'est QFD. T'as voulu mettre un masque, et bah y'avait pas de masque. Mais je peux t'en faire un à base de sopalin. J'ai voulu truc de ouf, aller acheter de la bouffe. Mais juste au coin de la rue, un flic m'est tombé dessus. J'avais pas marqué l'heure sur mon attestation. J'avais une mode de burn à coûter tant de pognon. Inflation. Oh mais Macron a dit chauffe personne, il faut rester chez vous. À devenir fou, on doit rester unis pour sauver la nation et l'hôpital public et la pigmentation de la barbe d'Edouard Philippe. Tu veux voir le JT? Waouh, la chouette idée! Je te laisse 10 minutes max pour finir l'Xanax. Le pays est en guerre, on ferme toutes les frontières, déficit, récession, des chômeurs par million. On est en plein cauchemar, mais place du Panthéon, on a vu des canards, si c'est-il pas mignon. Et en plus, c'est bon, rôti. Alors à ce qui paraît, faut tenir jusqu'au 11 mai. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de tout ce temps offert? On a déjà tué le chat, ligoté les enfants, dénoncé le voisin qui va voir ses parents dans un EHPAD pourri du côté de Charenton. Vivement que ce soit fini, qu'on se confine en prison pour de bon. Oh mais Macron a dit hey, l'ancien monde c'est fini. Débloquons des crédits pour les plus démunis. En septembre prochain, s'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la fête de l'UMA. À 20h, il faut se mettre à gueuler à la fenêtre pour soutenir les soignants en galère d'équipement. C'est les mêmes l'an passé qui se faisaient tabasser par la marée chaussée pour avoir du budget. Maintenant, c'est des héros, moi je leur tire mon chapeau. Si avec tout ça, ils tiennent pas un peu schizophrènes, pourvu qu'ils tiennent, qu'on s'en souvienne.